Enseigne-nous effectivement à mieux te connaître, t'aimer et te servir, à mieux nous réjouir en toi, à toujours plus faire de toi le centre de nos vies. Amen. Alors vous connaissez tous Zorro, et Zorro ne serait pas Zorro sans un minimum d'accessoires. Il a toujours bien sûr son cheval, son chapeau, sa cape, et puis accessoires nécessaires, le masque. Qui garde son anonymat, et puis son épée, bien sûr, qui ne manque pas de dégainer pour rétablir la justice. Alors, nous ne sommes pas les Zorro, pas de masque d'épée ce matin, mais nous sommes des disciples de Jésus-Christ, qui n'ont pas comme Zorro à porter des accessoires, mais qui ont à porter des fruits. Des fruits nécessaires qui confirment bien leur qualité de disciples. Tout comme les accessoires attestent bien qu'il s'agit de Zorro. Si nous sommes disciples de Jésus-Christ, nous avons des œuvres à produire. Et parmi elles, celle que Jésus nous laisse et qui nous est rapportée à la toute fin de l'Évangile selon Matthieu au verset 19. Alors nous allons faire la lecture de ce passage, nous, à partir du verset 16. Alors c'est la page 643, pour ceux qui lisent, qui suivent dans les Bibles blanches, page 643. Donc nous lirons Matthieu 28, le chapitre 28, à partir du verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Alors ce sont les paroles de Jésus qui nous intéresseront plus particulièrement ce matin, les versets 18 à 20 donc, et ce sont aussi ces mêmes paroles qui dicteront les différentes parties de notre message. Nous verrons ainsi la victoire que Jésus a remportée, la mission qu'il nous laisse, et enfin la promesse qu'il nous fait. Alors ces trois points se trouve à l'intérieur du petit bulletin qui vous a été remis pour nous aider à suivre. Alors pour commencer, tout d'abord, la victoire que Jésus a remportée. Nous verrons tout d'abord de quelle victoire il s'agit. Nous nous arrêterons ensuite sur le comment de la victoire. Comment cette victoire a été acquise. Pour terminer enfin par son ampleur. Alors, de quelle victoire s'agit-il? Cela a été déjà rappelé depuis la chute, depuis la rébellion de Satan et de l'homme contre leur Créateur. Les choses, on le voit, vont de mal en pis, injustice, corruption, orgueil. Avec toujours donc cette même fin tragique qui avait été annoncée aux hommes par Dieu. La mort physique et spirituel. Les hommes vont devoir affronter le juste jugement de Dieu. Alors, qui va remettre de l'ordre? Nous aspirons tous, même les non-croyants, à la justice dans cette création. Qui va tout à la fois faire justice, punir le coupable, et sauver. Sauver les hommes coupables du juste jugement. Coupables du juste jugement à venir. Alors une mission apparemment irréalisable, car avec des objectifs inconciliables, semble-t-il. Comment faire justice tout en sauvant? Alors dans l'Ancien Testament, les auteurs ne cessent d'annoncer la venue d'un personnage qui, on le voit, a toute autorité pour à la fois, justement, juger et sauver. On vient de finir une série dans les psaumes. Nous avons évoqué le psaume 2, où le psalmiste nous présente un roi redoutable qui va faire justice, dont nous avons à craindre la juste colère, mais dans lequel, en même temps, nous trouvons un abri. Alors ce roi est arrivé. Durant son ministère public, Jésus a commencé à remettre de l'ordre dans sa création. Il chasse les vendeurs du temple. Il guérit les malades. Il ressuscite les morts. Ultimement, Jésus a vaincu la mort. Et l'adversaire, Satan. De quelle victoire s'agit-il ? Il s'agit de la victoire de Jésus sur Satan, sur le mal, sur la mort. Une victoire éclatante qui fait donc bien de lui le roi des rois, qui lui confère, on le voit, toute autorité. Alors comment cette victoire a-t-elle été acquise ? Le récit de la crucifixion se trouve seulement à quelques versets de notre passage. Le chapitre 27 se termine sur la mise au tombeau de Jésus. C'est à la croix que Jésus a remporté la victoire. Cela peut paraître un peu paradoxal, n'est-ce pas ? Alors que Jésus subit la suprême humiliation à la croix, c'est à ce moment-là précisément qu'il remporte la victoire. Alors que ses adversaires, à commencer par Satan, pensent triompher, ils sont vaincus, définitivement. Cela a déjà été dit ici, avec la mort de Jésus, c'est la mort de la mort. C'est la déroute complète de Satan, c'est la fin du règne du mal. Avec la mort de Jésus, les effets dévastateurs de la chute sont enfin renversé, ce n'est plus la malédiction, mais la bénédiction. Ce n'est plus la mort, mais la vie. Et cette mission qui semblait irréalisable avec ses objectifs si inconciliables, faire justice, sauver le pécheur, cette mission a été réalisée parfaitement par Jésus, en Jésus, en lui. La justice est passée, le jugement, le juste jugement de Dieu est tombé. C'est Jésus qu'il a pris sur lui à notre place et nous a ainsi sauvés. Justice et salut en Jésus, victoire totale à la croix. Alors les chrétiens sont attachés à ce symbole, on peut penser au plan des églises, enfin des anciennes églises en forme de croix, aux bijoux pendentifs. Ils ne se trompent pas. La croix est le symbole de la victoire. Dieu a toujours été aux commandes. Mais en même temps, on peut dire qu'il y a quand même un avant et un après la mort et la crucifixion et la résurrection de Jésus. La mort et la résurrection de Jésus manifestent de façon éclatante et d'une manière vraiment unique cette souveraineté absolue de Dieu. Comment la victoire a été acquise ? Par la mort et la résurrection de Jésus. Alors, dernier point, l'ampleur de la victoire. La victoire de Jésus a eu, on le voit, un coût exorbitant. La propre vie de Dieu, le Fils. Mais cette victoire est totale. Dans sa déclaration, Jésus proclame son absolue souveraineté sur toute la création. Avec sa résurrection, il est entré dans ce règne particulier qui avait été annoncé par les prophètes. On peut lire, écouter simplement ce que dit Daniel concernant ce roi à venir qui va régner. Daniel 7, 14. On lui a donné la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle. Il ne cessera pas, et son royaume ne sera jamais détruit. La prophétie de Daniel s'est bien manifestée en Jésus. Et ce règne, on le voit, est un règne à la fois glorieux, universel, éternel. Dans sa déclaration, on le voit, Jésus affirme avoir tout pouvoir sur le ciel, dans le ciel, comme sur la terre. Alors dans le ciel ne nous pose peut-être pas trop de problèmes. Jésus est monté au ciel, il règne à la droite du Père. mais sur la terre. On regarde tout ce qui s'y passe, de tout ce qui se passe dans nos vies. Comme les disciples au verset 17, nous doutons peut-être. Est-ce que même sur terre, Jésus a tout pouvoir? On le voit, il le déclare. Croyons-le. Même si ce règne, c'est vrai, n'est pas encore pleinement manifesté. Emparons-nous malgré tout de cette promesse si réconfortante. Même si les circonstances autour de nous crient le contraire, Jésus a toute autorité, même ici-bas. Il règne sur les nations, il règne sur les circonstances de ma vie. Croyons-le. C'est parce qu'il règne, justement dans ce monde, dans son monde, que nous pouvons recevoir la mission qu'il nous confie avec assurance. Alors c'est le deuxième point, la mission. La mission que Jésus nous laisse. Et c'est une partie sur laquelle, un point sur lequel j'aimerais vraiment insister ce matin. Alors nous verrons successivement la nature de la mission, les destinataires, et enfin les conditions de réussite de la mission. Alors d'abord la nature. Quelle est cette mission que Jésus nous laisse ici? Donc on peut relire les versets 19 à 20b. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. La mission, on le voit, est de faire de toutes les nations des disciples de Jésus-Christ. Comment? En les baptisant et en leur enseignant tout ce que Jésus a lui-même enseigné. Alors en les baptisant tout d'abord, il s'agit ici d'annoncer l'évangile, d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ et de voir les fruits de cette proclamation par des conversions qui se manifesteront par le baptême. Le baptême, en effet, est la manifestation visible de la conversion. Alors c'est le premier volet de la mission, tout simplement, évangéliser, dire l'évangile. Mais Jésus connaît bien nos cœurs faibles, oublieux. Il sait que pour s'accrocher à lui, il nous faut être enseigné régulièrement. Il ne s'agit pas d'entendre l'évangile, d'y croire, d'être baptisé et de continuer notre vie d'avant. Avec la conversion, nous sommes entrés dans une nouvelle vie, dans une relation privilégiée avec celui qui est maintenant devenu notre Dieu. Nous vivons dorénavant pour lui et le but de nos vies est à présent de toujours mieux le connaître, lui et sa volonté pour nous. Et pour cela, nous avons besoin d'être enseignés. Jésus poursuit donc et montre que la proclamation de l'évangile ne doit jamais s'arrêter. Elle continue par un enseignement régulier sur sa personne, sur son œuvre. Un enseignement qui a pour but de nous montrer toujours plus sa gloire. Alors, si vous êtes là ce matin, c'est que vous êtes assez convaincu de cela. Pour avancer avec notre Seigneur, nous avons besoin d'être enseignés jour après jour. Donc après l'évangélisation, baptiser, c'est la partie édification, enseigner. Alors deux remarques, on voit dans cet enseignement a une traduction très pratique, mettre en pratique. L'enseignement reçu nous permet de toujours mieux connaître Jésus, sa volonté pour nos vies. Et cette connaissance de Jésus, de sa volonté, nous amène à toujours plus rejeter le mal dans la vie et à toujours plus nous accrocher à lui. Finalement, à lui offrir des vies toujours plus marquées par l'obéissance. Et puis, une deuxième remarque, on voit ici toute l'importance de rester fidèle à tout ce que Jésus a lui-même enseigné. Il s'agit d'enseigner tout ce qu'il a lui-même prescrit, de n'en rien retirer donc, comme de n'en rien ajouter, d'être fidèle à sa parole. Voici la mission, faire de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, et en leur enseignant tout ce que Jésus a lui-même enseigné au monde. Alors le deuxième point, après la mission, ce sont les destinataires. Alors les 11 apôtres sont à l'évidence les premiers destinataires de cette mission. Et quoi de plus normal, ils ont été aux côtés de Jésus pendant 3 ans. Ils ont été les témoins privilégiés des œuvres, de l'enseignement, de la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Jusqu'ici, c'était Jésus qui enseignait. Il le fait d'ailleurs ici une dernière fois. Jésus va monter au ciel. À présent, ce sont les disciples qui vont prendre le relais et enseigner à leur tour. Alors la question est de savoir si les apôtres sont les seuls destinataires de cette mission. Alors on voit bien déjà dans l'évangile, à la lecture des épîtres, que ce n'est pas le cas. Beaucoup, sans être apôtres, ont repris cette mission que Jésus avait laissée aux 11. Je pense à l'exemple de Timothée et de Tite qui l'illustre très bien. Paul, apôtre, celui qui a été envoyé parmi les nations justement, par Jésus. Eh bien, Paul prêche et enseigne Timothée et Tite pour qu'eux-mêmes ensuite puissent à leur tour prêcher l'évangile et enseigner. Alors une autre question doit alors être abordée. Si le mandat de faire des nations des disciples n'est pas limité aux seuls apôtres, à qui est-il adressé exactement? Cette mission est-elle réservée aux pasteurs, aux anciens, aux évangélistes, aux spécialistes? Alors j'aimerais vous lire un extrait d'un livre que Trevor nous a recommandé pour les vacances. Vous avez un peu de travail. Ça s'appelle « L'essentiel dans l'Église ». Alors c'est un livre qui m'a pas mal remis en question. Alors je vous lis un court extrait. « L'appel à être disciple est donc un appel à faire allégeance à Jésus face à un monde qui lui est hostile, à le servir lui ainsi que sa mission. » Donc cette mission de faire des nations des disciples. Ainsi comme le dit Jésus à cet homme qu'il croit sur la route, « Ne te soucie pas des funérailles de ton père, mais laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » En d'autres termes, le grand mandat missionnaire ne concerne pas seulement les 11, c'est le programme de base de tout disciple de Jésus-Christ. Être un disciple, c'est aussi être quelqu'un qui fait d'autres disciples. Être un disciple, c'est aussi quelqu'un qui fait d'autres disciples. Cette mission est adressée à tous. Alors, est-ce que nous l'accomplissons? Ou y a-t-il un abîme entre l'ordre missionnaire que nous laisse Jésus ici et l'ordinaire de nos vies? Quand, pour la dernière fois, avons-nous proclamé l'Évangile? Prenons conscience que dans nos sociétés occidentales, et notamment en France, l'humanisme, l'athéisme, le relativisme ont largement réussi à exclure Dieu et ses adorateurs, à les marginaliser. Plus fort encore, ces courants de pensée sont tellement puissants que nous-mêmes croyants, nous les intégrons, nous les acceptons et nous nous auto-censurons. Nous avons bien sûr peur d'être rejetés et c'est peut-être ce qui se passera. Nous n'annonçons pas l'évangile pour nous protéger de la déception de voir une nouvelle fois un être parfois cher à nouveau rejeter l'évangile. De toute façon, avec lui, ce n'est pas la peine. Nous finissons par considérer qu'en effet, la foi relève du privé, que nous n'avons pas à casser les pieds de nos amis non-croyants avec Jésus. Après tout, il y a des églises. S'ils sont intéressés, ils finiront bien par venir. Zorro n'est pas Zorro sans son masque et son épée. Nous sommes disciples de Jésus. Nous n'avons pas le choix. Il s'agit d'un ordre. Nous devons avoir ce souci de faire des disciples de toutes les nations. Nous devons avoir ce souci de proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors quand on parle de proclamation de l'évangile, on a tout de suite des images mentales dans la tête. Grand rassemblement, orateur brillant, La proclamation de l'évangile se fait à tous les niveaux. Et c'est bien souvent d'ailleurs dans le 1-1 qu'elle est la plus efficace. La proclamation de l'évangile, c'est donc aussi celle qui se fait par les parents auprès de leurs enfants. La maman qui a ce souci de dire la bonne nouvelle de Jésus à ses enfants, de leur montrer à quel point cette bonne nouvelle a changé elle-même. Proclamons l'évangile à nos familles, à nos amis, à nos collègues. Faisons-le certes avec sagesse, avec respect, avec amour, mais faisons-le. Je vous encourage en ce temps de rentrée à vous lancer un challenge, à essayer peut-être cette année de présenter l'évangile à 3 personnes. Ce serait déjà formidable. Pour cela, il nous faut nous-mêmes bien le connaître et savoir le transmettre. Et là se pose la question de la formation. Je suis sûr que bien souvent, devant une question sur Jésus, on n'a pas su très bien répondre. On pourrait ici, dans le cadre de cette église, réfléchir à comment transmettre simplement et fidèlement la bonne nouvelle de Jésus. C'est vrai que c'est un exercice qui n'est pas si simple que cela. Jésus vous aime. C'est vrai. Mais est-ce suffisant? Est-ce tout l'évangile? Faut-il commencer par cela? Si nous avons un cœur, et nous devons avoir un cœur, on l'a vu, de transmettre l'évangile, une formation, aussi modeste soit-elle, pourra bien nous aider. Et d'une certaine façon, ce matin, avec la présidence, elle a un peu commencé avec les 5 C. Allez! Faire des disciples de toutes les nations est une lourde responsabilité qui nous coûtera sûrement cher. Mais c'est aussi un immense privilège. Jésus nous associe à son dessein extraordinaire de rassembler son peuple. Il nous demande de le faire connaître d'une certaine façon. Que fait Jésus ici? Jésus nous confie sa gloire. Dieu est glorifié en effet quand il est connu, reconnu pour ce qu'il est, et l'on voit dans cette mission que nous avons un rôle à jouer dans cette transmission de sa connaissance. Dieu a créé le monde et a demandé à l'homme de le peupler. Ici, nous le voyons, Dieu, le Fils, demande à ses disciples de peupler son monde d'adorateurs véritables en proclamant l'Évangile. C'est la mission la plus importante, la plus exaltante que nous ayons à mener ici-bas. Ne la ratons pas. Alors, nous avons beaucoup parlé de notre responsabilité dans la mission de faire des disciples. Finissons sur les conditions nécessaires à la réussite d'une telle mission. Si notre responsabilité, on le voit, est pleinement engagée dans la mission, pour autant, sa réussite ne repose pas sur nous. Et c'est heureux. Comme on le voit dans ce passage, une nouvelle fois, les disciples de Jésus ne sont pas à la hauteur. Ils adorent Jésus, mais certains encore et toujours ont des doutes. Les disciples, et nous avec eux, ont une foi souvent bien vacillante. Ce n'est décidément donc pas la qualité, la grandeur, la force, la pureté de notre foi qui sera la base de la réussite de la mission. Alors si ce n'est pas la foi des disciples, la nôtre, sur laquelle repose la réussite de la mission, sur quoi repose-t-elle? Alors 3 fondements, la victoire de Jésus, la présence de Jésus et la grâce de Jésus. Alors la victoire tout d'abord, la victoire de Jésus, nous l'avons déjà largement développée. Tout pouvoir a été remis par le Père à Jésus, y compris donc celui d'appeler à lui celles et ceux qu'il a choisis. Notre mission n'a de sens que parce que nous savons que Jésus, par son esprit, peut toucher les cœurs, même les plus fermes. Ce ne sont pas nos raisonnements, nos forces de persuasion, notre force de persuasion, notre éloquence qui, au final, touche les cœurs. C'est Jésus seul. Deuxième fondement, la présence de Jésus. La présence de Jésus tous les jours jusqu'à la fin du monde est bien sûr, on va le voir, un privilège immense, mais c'est aussi la condition nécessaire à la réussite de notre mission. Sans Jésus à nos côtés, nous serions incapables d'entrer dans cette mission, de répondre à l'ordre missionnaire. Sa promesse d'être avec nous jusqu'au bout est ce qui nous permet d'obéir à l'appel qui nous adresse ici. Il est intéressant de voir que l'appel missionnaire de Jésus est encadré par sa victoire et par la promesse de sa présence. Quelles plus grandes assurances pourrions-nous avoir pour la réussite de notre mission? Et enfin, dernier fondement, après la victoire, la présence, la grâce de Jésus. Alors, souvenons-nous du contexte. Jésus a été crucifié quelques jours avant. Crucifié et abandonné par ses disciples. En commençant par Pierre, ils l'ont tous renié. Ils se sont tous lamentablement défilés. Aurions-nous fait mieux? Et il est possible d'ailleurs que certains ne se sentaient pas très à l'aise à l'idée de retrouver Jésus sur la montagne. Jésus a dû affronter la trahison, le reniement de ses disciples, leur rejet. Et pourtant, dans ce passage, c'est lui qui, à nouveau, prend l'initiative pour les rencontrer. Il les appelle. Il leur donne rendez-vous, au verset 16. Devant l'incrédulité de certains, il s'approche. Verset 18. Jésus pardonne ses disciples. Il couvre leurs fautes. Il leur fait grâce. Et c'est fort de cette grâce que les disciples, et nous à leur suite, nous allons pouvoir répondre à l'ordre missionnaire de Jésus. Que nous allons pouvoir entrer dans la mission avec zèle, avec courage, avec joie. Alors cet été, nous étions sur la côte varoise, là où il fait toujours beau, et pourtant, un matin, il a plu. Et ça a été d'ailleurs le seul moment, la seule demi-journée de pluie pendant ces 15 jours. Et ce matin-là, deux femmes ont frappé à notre porte, une résidence, et puis elles faisaient le tour des appartements. C'était des témoins de Jéhovah. Après discussion, je me suis dit, quelle réactivité, quel zèle, elles profitent de cette matinée d'orage pour trouver les gens chez eux et leur annoncer ce qu'elles croient être une bonne nouvelle. Mais après réflexion, je me suis dit que ce qui a motivé le zèle de ces femmes, c'est la peur. Elles frappent de porte en porte, elles sont dans la mission car elles espèrent ainsi gagner le salut, marquer des points. Ce n'est pas la peur qui nous motive. Il en va tout autrement. Jésus nous a fait grâce. Nous sommes sauvés. Et c'est cette grâce, ce salut acquis en Jésus, le moteur qui nous fait entrer dans la mission. La réussite de la mission que Jésus nous confie repose sur lui seul, sur sa victoire, sur sa présence et sur sa grâce. Et en effet, l'ordre missionnaire de Jésus est en train de s'accomplir. Les fruits sont bien là, visibles. Regardez, ils sont 11. Des hommes simples, sans éducation, à la fois bien chancelants. Et aujourd'hui, combien de disciples de Jésus-Christ dans le monde? Des millions, des dizaines de millions, des centaines de millions? Issus de tous les peuples. D'ailleurs, nous en sommes ici, les représentants. Il y a peut-être tous les continents encore représentés ce matin. Alors, ici en France, c'est vrai, c'est dur. Mais qui sait, peut-être que Dieu a un peuple nombreux dans ce pays et qu'il va nous étonner. En attendant, et pour nous fortifier, regardons Dieu à l'œuvre de façon manifeste ailleurs et réjouissons-nous. Alors, on termine avec la promesse que Jésus nous fait et qui sera en même temps notre conclusion. C'est le verset 20b. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alors cette promesse clôt le dernier enseignement de Jésus et résonne comme une assurance à toute épreuve. Si Dieu est avec nous, nous dit saint Paul, qui sera contre nous? Alors la question est de savoir si cette promesse est une promesse générale ou si elle est liée à ce qui vient d'être dit par Jésus, et notamment liée à l'ordre missionnaire qu'il vient de nous laisser. Alors c'est vrai, cette promesse n'est pas soumise à condition. Jésus ne dit pas qu'il sera avec nous si nous faisons des disciples, et encore moins qu'il ne sera pas avec nous si nous ne faisons pas de disciples. À partir du moment où nous nous sommes sincèrement repentis, où nous avons reconnu de façon toute personnelle Christ comme notre sauveur, et avons vraiment la volonté de faire de lui notre roi, le maître de nos vies, alors nous pouvons être assurés de sa présence. Ceci étant, cette promesse est donnée juste après cet ordre missionnaire. Il existe donc un lien, mais lequel ? Pour faire des disciples, nous devons prêcher l'évangile. Nous annonçons la grandeur, la justice, la bonté de Dieu pour les hommes. Et en faisant cela, nous nous prêchons à nous-mêmes. Nous nous prêchons ces vérités si lumineuses. Nous apprenons donc, en évangélisant, à mieux le connaître et à expérimenter donc toujours plus sa présence. En tant que disciples de Jésus, nous proclamons l'évangile, pas seulement parce que c'est la vérité, mais parce que c'est notre vérité. Nous avons goûté nous-mêmes de façon toute personnelle à cette vérité, à l'évangile. Nous ne sommes pas seulement des transmetteurs de l'évangile, comme quelqu'un qui transmet de façon un peu froide, détachée, un savoir. Nous sommes des témoins qui sommes au bénéfice de cet évangile. Et quand nous proclamons que Jésus s'est sacrifié pour les hommes, nous parlons de notre propre expérience. Nous nous souvenons qu'il s'est sacrifié pour nous. Et nous expérimentons ainsi sa présence, son amour, sa bonté. En étant des témoins de l'évangile, nous répondons à l'ordre missionnaire de Jésus. Nous sommes donc bien dans sa volonté. Et c'est dans la volonté de Jésus que nous expérimentons le Dieu, sa présence. Appuyons-nous sur la victoire de Jésus à la croix. Acceptons avec joie, gravité, la mission de faire des disciples. Et expérimentons ainsi sa présence. Ceci pour le salut de beaucoup et pour la seule gloire de Jésus, notre roi. Amen. Je finirai par la prière. Notre Dieu, nous voulons te remercier encore pour Jésus, pour sa victoire à la croix, pour sa présence. Aide-nous en effet à nous accrocher à cela pour répondre à l'ordre missionnaire que Jésus nous a laissé. Aide-nous aussi à aimer nos amis non croyants. Et Seigneur, voilà, donne-nous hardiesse, courage, zèle pour entrer dans cette mission, cette si belle mission. Aide-nous vraiment à t'honorer en répondant à ton appel et en pensant que lorsque nous serons auprès de toi, tu nous diras: c'est bien, fidèle serviteur. Amen.